dans votre conception de l'autorité, finalement, à la fin, j'ai l'impression que la conception que vous défendez, elle peut tout à fait être revendiquée par le démocratique libéral. Parce que elle vient à l'appui de nos démocraties.
C'est tout l'enjeu. Et la ligne, vous pointez le juste point. C'est-à-dire que. Alors, Lee Kuan Yew est un personnage très très embarrassant parce qu'il est vraiment génial. Il est admirateur du général de Gaulle, enfin, et il est vraiment d'une profondeur inouïe. Simplement, la grande différence entre l'usage de Lee Kuan Yew et ce que font ces épigones, c'est que les épigones retombent à peu près systématiquement dans l'idée qu'il faut maintenir les peuples dans l'enfance. Et que le but n'est pas l'accès des peuples à la majorité. Ce qu'on peut défendre en démocratie libérale, et c'est ça la vraie conception de l'autorité qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que cette autorité est au service de l'émancipation, de la liberté. La liberté reste le but, ce qui n'est pas du tout le cas dans la démocratie illibérale. La démocratie libérale dit on veut le bien-être, la liberté c'est secondaire. Tout l'enjeu du débat entre Lee Kuan Yew et Amartya Sen, par exemple, le prix Nobel d'économie indien, qui a beaucoup discuté. Amartya Sen, la liberté est l'objectif. On est heureux que si on est libre. Pour Lee Kuan Yew, il vaut mieux le bonheur que la liberté. C'est un vaste débat philosophique qui traverse une bonne partie de la tradition philosophique. Si vous voulez, pour donner des exemples concrets, dans les politiques de Lee Kuan Yew, génial, hyper intelligente, enfin ça, mais il y a quand même des trucs, quand il y a des cours d'épanouissement du couple, c'est-à-dire que les voisins constatent que le couple voisin semble un peu trop. Ils appellent un numéro vert, ils disent voilà, il faudrait suggérer à ce couple un cours d'épanouissement du couple, là ça s'engueule trop, ça fait trop de beaux copains. Je trouve que là on est quand même dans un truc limite. Et ça irradie assez largement, dans l'eau c'est le secteur le plus choquant, mais ça irradie assez largement avec par exemple une logique d'évaluation. C'est-à-dire que la Chine vient de mettre ça, le citoyen est évalué avec des critères d'évaluation comme l'entreprise. C'est un point, parce que. Le débat entre Lee Kuan Yew et les néolibéraux, Milton Friedman et Hayek, un débat très, très intéressant, Lee Kuan Yew disait, le marché ne fait pas tout, on peut être en prospérité avec un État fort et un État autoritaire. Et Hayek répond, non, parce que Singapour, c'est pas un État, c'est une entreprise. Donc, c'est la fonction du management d'entreprise. C'est assez subtil. Je doute, en revanche, que la Chine puisse être une entreprise. C'est-à-dire, j'ai les plus grands doutes sur l'application directe des méthodes de Lee Kuan Yew en Chine, dans sa globalité, même si il y a pourtant la morale confucéenne. Donc, vous voyez, l'objectif, c'est fin, mais c'est un objectif clair. Ce qui nous manque, pour répondre à ta question, c'est la clarification du conseil d'autorité. Parce qu'on a l'impression qu'il faut évidemment le virer, que toute sanction, que toute clarification est une violence. À la société. Il faut qu'on assume nos choix en disant je prends une décision, comme parent, je prends un modèle de parent, je prends une décision violente, je t'interdis de sortir, mais je sais moi que si je t'interdis de sortir, c'est parce que adulte, toi-même, tu considérais qu'il ne faut pas sortir. Donc le but est l'émancipation. C'est pas le bonheur, c'est l'émancipation.
Moi, j'ai une question un peu en complément de celle de Jean-Pierre et qui permet de nous réancrer dans la thématique de l'IDAT, finalement. Il se trouve que moi, j'étais à Singapour il y a 2 ans au moment du décès de Lee Kuan Yew. D'une part, j'ai constaté le culte de la personnalité inouïe dont il bénéficie. Culte de la personnalité complètement organisé, puisque... Je ne sais pas si les habitants, il y avait un critère d'évaluation, mais en fait, tout le monde était quand même, devait passer devant son cercueil. Enfin, c'était organisé. Toutes les entreprises avaient des rendez-vous donc, pour aussi se prosterner devant lui. Illibéral, très certainement. Démocratie, je m'interroge, parce qu'il y a un semblant d'opposition. Mais bon, faire 98% à chaque élection, l'opposition est muselée. En revanche, et c'est là, ça rejoint la question de Jean-Bien et la thématique de l'IEDAT, quand on se pose la question de pourquoi ça marche à Singapour, il y a quand même une dimension qui est extrêmement forte, c'est que Singapour, c'est une ville-nation. Et ça, c'est, quand vous dites c'est la Chine, enfin c'est une entreprise, la Chine est une entreprise, c'est un élément qui pour moi est extrêmement déterminant. Et je voulais vous interroger là-dessus. Quand vous dites Émirats Arabes Unis, ils suivent la même chose. Les Émirats, finalement, quand on regarde Abu Dhabi, on sort de la ville d'Abu Dhabi, on a une oasis Al Ain un peu plus loin. Masdar, c'est quand même un quartier d'Abu Dhabi. Donc en fait, sortir de la ville d'Abu Dhabi, l'Émirat d'Abu Dhabi, c'est trois bergers. Donc finalement, on a des analogies, c'est-à-dire que c'est des villes nations. Donc est-ce que c'est pas un élément explicatif de pourquoi ça marche et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à...
Oui, je pense qu'on a... Alors, le modèle de démocratie libérale a été théorisé par un collègue américain qui s'appelle Farid Zakarian, non, c'est pas Farid, si Farid Zakarian, qui a fait beaucoup de discussions avec Lee Kuan Yew et donc qui a organisé ça. C'est vrai que je pense que... vous avez raison, la question de la dimension... Et capital. Avec aussi, alors c'est un point qu'il faut ajouter dans cet exemple, c'est que ce sont à chaque fois des populations, alors c'est pas la même chose à Abu Dhabi et à Singapour, mais à Singapour, il y a une politique de diversité culturelle et de laïcité qui est extrêmement puissante, mais aussi ultra rigide, parce que les taux d'immigration, ils sont prédéfinis, et on n'en sort pas. 60%, j'ai plus les chiffres en tête, mais 60% de Chinois, 40% de Malais, et puis un pourcentage d'Occidentaux. Voilà. Et c'est très 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 précis, on veille ça de manière absolument rigoureuse, et s'il y a la personne de trop, il n'y a pas de question de regroupement familial, on la vire. C'est une violence inouïe. À Abu Dhabi, de ce point de vue-là, ce n'est pas des mondes réels, 80% de la population qui est migrée à Dubaï. Bon, là, clairement, il y a un modèle social, c'est un peu différent à Abu Dhabi, mais il y a un modèle social qui est très problématique, parce que les émigrés ne peuvent pas devenir propriétaires. Donc, aucun moyen de rester s'installer à Abu Dhabi ou à Dubaï. Il faut être sponsorisé par une famille pour pouvoir s'installer dans ces pays. Donc, il y a là des ressources, des facteurs d'explosion potentiels qui sont considérables. À Singapour, c'est assez bien conçu, mais il faut effectivement regarder la diversité des choses. Après, la question qui se pose, c'est effectivement l'importation en Europe. Parce qu'à chaque fois, ces modèles se revendiquent d'une diversité culturelle, c'est-à-dire la culture confucéenne pour les Kuan Yew, l'islam millénaire, je veux dire millénaire parce qu'il intègre les Bédouins pour Abu Dhabi. Et la question, c'est de savoir si cette importation en Europe, c'est simplement la tradition, disons, de l'autoritarisme russe qui s'impose à des pays de l'Est. Donc il y a toute une série de problèmes qui fait qu'on aurait tort, effectivement, de trop unifier, et la question du devenir de ce modèle est assez incertaine. C'est pourquoi, effectivement, je pense qu'il faut tenir bon, mais en prenant au sérieux le défi. C'est-à-dire que c'est vraiment ce défi de la question de l'autorité. Il faut qu'on arrive à clarifier chez nous que, un, on est fiers de nous, qu'on n'est pas des situations de décadence, parce que c'est pas vrai, je crois profondément, et que par ailleurs, nous avons des moyens conceptuels de dire qu'on respecte, mais on a une puissance qui est présente. Et cette puissance d'une démocratie qui fonctionne effectivement sans raison, c'est une énigme qu'il faut résoudre. Pardon.
Pensez à vous présenter à l'intervenu.
Merci. Oui, présentez-vous, c'est vrai que c'est la règle.
Michel, clairement bien le micro. Dans ce que vous dites sur l'importation en Europe, c'est ce sur quoi j'avais envie de réagir. Est-ce qu'il n'y a pas l'acceptation de notre réduction de notre périmètre de liberté qui explique beaucoup de choses aussi? Parce qu'on est confronté à l'autre, à la peur de l'autre. Qu'on se replie et qui peut aussi expliquer des choses aux États-Unis. Et c'est peut-être moins le changement de modèle de démocratie, même s'il y a des liens, je ne discute pas, mais sur le fait qu'on accepte qu'on diminue nos périmètres de liberté parce qu'on se replie.
C'est-à-dire qu'il y a une. Effectivement, il faut. Dans une logique de. Je vais essayer de. En une phrase. Le libéralisme produit. L'idée que la liberté, c'est l'absence de contraintes. Si on arrive à l'idée de l'absence de contraintes, on s'aperçoit que c'est un système encore plus oppressif que le système autoritaire. Et donc l'excès de liberté au pluriel peut produire une oppression sans commune mesure avec le passé. Donc du coup, effectivement, il faut revenir au cercle vertueux de ce qu'est une société d'individus. Une société d'individus, c'est une société qui fabrique des individus, mais qui fabrique des individus qui fabriquent la société. C'est-à-dire qu'il y a ce cercle vertueux qu'il faut reconstituer dans nos discours, dans nos représentations, qu'une bonne société, c'est une société certes qui fabrique des individus, une sphère privée, des libertés, etc., à condition effectivement que ces libertés, ces individus fabriquent la société. Nous sommes un peu sortis, je crois, plus idéologiquement que dans les faits, de ce cercle vertueux. Il faut juste reclarifier un tout petit peu ça, sans retomber dans les trucs anciens, disons, l'autorité de papa, c'est une nouvelle forme d'autorité.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi que c'était un couple? C'est-à-dire, si tu veux dire que le couple avec la famille, il disait toujours, effectivement, les sociétés communistes se déstructurent et les sociétés capitalistes ne se rendent pas compte que c'est le couple qui se défait. Donc, effectivement, nos sociétés générales s'imposaient un modèle, on va dire, totalitaire, on va aller assez vite. Et au fond, c'était des couples politiques. Et le couple, au fond, détruit le auto-détruit, d'ailleurs, parce que c'est pas nous qui avons détruit le modèle soviétique, pas nous tout seuls. Mais si tu veux, est-ce qu'on n'a pas au fond détruit l'élément du couple qui fait qu'on est en train de chercher un nouveau couple?
Le nouveau couple, il arrive, clairement. C'est le fondamentalisme. En général, les musulmans particuliers représentent effectivement ce contre quoi l'illibéralisme et le libéralisme vont devoir lutter. Des armes différentes, oui. Mais
c'est ensemble.
Et ensemble. Et c'est une idéologie, c'est là où on se trompe assez largement, en fait, quand on partage tout à même le diagnostic. C'est une idéologie très petite, qui est aussi élaborée, même si on la connaît moins, que a pu l'être le fascisme ou le communisme stalinien. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement élaboré, intelligent, cohérent, convaincant, c'est une vision du monde. C'est moins d'ailleurs une religion. On disait jadis, ce sont des idéologies de salut terrestre. Eh bien, le fondamentalisme, c'est une religion de salut céleste. C'est une idéologie, pardon, de salut céleste. C'est-à-dire, c'est une religion, c'est une idéologie. La caractéristique du fondamentalisme, c'est que c'est pas une religion, c'est une idéologisation d'une religion, qui devient une idéologie à part entière. Et c'est là où l'idée de l'islam modéré est absurde. Ça n'a rien à voir, entre l'islam laïque auquel on aspire, c'est-à-dire un islam qui se limite à... et ce qui est en jeu par le fondamentalisme, ça n'a juste rien à voir. C'est ces deux trucs qui vont... comme un réformateur et un stalinien, ça n'a juste rien à voir, un fasciste et un... en Asie. Donc c'est vraiment ce point qu'il faut absolument comprendre. C'est une lutte qui va durer beaucoup de temps.
Oui, c'est une transformation de nature politique.
Oui, c'est exactement
ça. Que ce que tu dis est très juste. Il n'y a pas de passage de l'islam modéré à l'islam fondamentaliste, parce que ce n'est pas la même nature de la société. Donc il n'y a pas des modérés et des durs, en fait.
Non.
Il y a du religieux et du politique.
Avec cette mauvaise conscience que le fondamentalisme fait qu'ils ont raison. Ils disent, vous n'êtes pas religieux, c'est vrai.
Mesdames, il y a deux dames là-bas.
Il y a
Bernard Garin, je crois aussi. Là-bas, il y a un monsieur aussi. Maintenant, on va donner la parole aux dames, mesdames.
Louise Denis, groupe WIG, justement, c'était pour dans la question de ce que vous étiez en train de dire. Justement, sur quelle forme vous analysez l'autorité de Daesh? Parce que, évidemment, il y a la théologie qui prédomine, mais pas que. Et on revient finalement à ce que vous disiez au tout début, qui est le petit chef qui devient finalement moyen chef, qui est peut-être en train de devenir le grand chef. Mais sous quel critère vous analysez du coup cette autorité qui, pour l'instant, est de plus en plus importante, en tout cas dans cette région-là?
Madame, on regroupe un peu parce que c'est...
Alors, j'ai une question complètement différente. Donc, Clément Fiché, moi, je suis directeur communication et concertation chez SNCF Réseau. Et dans l'intitulé, on est sur... sur pouvoir et autorité, en concertation, on voit qu'on a, dans la co-construction ou dans le dialogue territorial, on est sur la redistribution souvent du pouvoir, sur une voix égale une voix, et pas forcément sur une diffusion de l'autorité. Et du coup, je m'interroge, on a beaucoup réfléchi sur l'autorité, Est-ce que ces modifications des formes de pouvoir, elles ne font pas perdre l'autorité à certaines personnes qui avaient ces fonctions électives ou de pouvoir? Est-ce que ce n'est pas cette redistribution du pouvoir qui n'est pas forcément néfaste dans les process de concertation qui peuvent conduire à une idée d'affaiblissement de l'idée de l'autorité, alors que l'autorité, elle est plus sur une personne individuelle, mais elle est dans le collectif peut-être?
Je réponds assez dedans, mais on est dans le droit.
Oui, donc, dans la question, en fait, il faudra enchaîner un troisième élément. C'est la légitimité. Il y a le pouvoir, il y a l'autorité, la légitimité. La légitimité, c'est la procédure qui rend l'autorité légale. C'est une procédure d'attribution de l'autorité. Comment ça se fait, l'autorité? Et donc, c'est vrai que c'est les trois termes, on en débat depuis longtemps, mais on a effectivement un problème de source de l'autorité. C'est-à-dire que cette autorité, encore une fois, pour le dire d'une phrase, elle ne peut venir que de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut que nous comprenions que nous avons besoin de l'autorité. Et c'est un sentiment, une fois qu'on l'a compris, c'est ultra fort. Parce que comme c'est inscrit en nous, ça ne dépend pas de l'extérieur. Si l'enfant comprend, il le comprend en vérité très bien qu'il a besoin de l'autorité pour grandir, ça c'est la chose la plus évidente. Voilà. Si le citoyen comprend qu'il a besoin de l'autorité pour vivre avec les autres sans s'entretuer, c'est la définition de la politique, hein, comment vivre ensemble sans nous entretuer, eh bien s'il comprend ça, c'est gagné. C'est très fort, c'est très fort. Le problème, c'est qu'on a perdu un peu cette clarté, et qu'il faut peut-être la rappeler. Et pour l'entreprise, c'est un peu la même chose. C'est, qu'est-ce qui peut nous permettre, effectivement, de dans une entreprise, prise par des objectifs, par une concurrence interne, qu'est-ce qui peut permettre de prendre conscience qu'on a besoin de cette autorité pour rendre l'entreprise performante, pour bien gagner sa vie, etc. Je ne sais pas si je réponds à vos questions. Deuxième, première question, l'autorité de Daesh, c'est en fait un monstre. Comme toutes les autorités totalitaires, c'est un mélange monstrueux entre de l'ancien et du moderne. De l'ancien, on reprend les formes habituelles, tradition, théologie, etc., dans un mix, dans un mélange absolument... Enfin, très puissant, je ne veux pas être, négatif. Il faut respecter cette idéologie, pas au sens où il faut l'admirer, mais avoir conscience de sa puissance de séduction. Il ne faut pas du tout la dénigrer sur ces connards, les petits chefs, ils ne sont pas instruits. Non, c'est ultra puissant. C'est ultra puissant, ultra séduisant. Et un mélange de moderne, puisque évidemment, et c'est pour ça que ça ne peut pas gagner. Daesh ne peut pas gagner. Le fondamentalisme ne peut pas gagner, ils sont inscrits dans une contradiction. Ils sont hyper modernes, ils utilisent toute la modernité, la science pour produire des trucs. Et cette vision scientifique du monde percute de plein fouet leur vision archaïque du monde. Ça ne peut pas tenir, mais en attendant, ça va faire beaucoup de dégâts. Mais ça ne peut pas gagner, c'est pas possible. Mais quand la défaite va
être arrivée, on sera mort
avant. Voilà, on sera mort. Ça ne peut pas subsister.
Oui. Bernard Garin, je suis directeur d'hôpital. Hôpital psychiatrique, j'espère que ce n'est pas trop grave. Je voudrais vous interroger sur le mot valise que j'ai entendu parler, qui est démocrature. Oui, c'est qualifié le régime d'Erdogan en Turquie, bien avant même qu'il y ait cette purge après le coup d'État du 8 juillet 2016. Et pour reprendre l'interrogation de Jean-Bien, je voulais savoir si ce n'était pas les démocratures qui étaient en train de gagner.
C'est jamais, mais il me semble, peut-être c'est par optimisme mais d'être déraisonnable, que nous avons de très très bons moyens de. À la fois idéologique et politique, pour justement empêcher cette victoire. Alors, à l'extérieur, ils font ce qu'ils veulent. J'allais dire, il ne faut pas non plus être dans une logique néo-impérialiste de la démocratie, mais surtout empêcher qu'ils viennent chez nous. On peut sans doute aller plus avant dans une clarification de l'autorité, et de cette nouvelle autorité, qui est du bon sens, sans pour autant basculer dans, effectivement, l'idée de démocratie. Qu'est-ce que la démocratie, pour le dire clairement, qu'est-ce que le peuple de la démocratie? C'est pas un peuple qu'il faudrait trouver ici ou là. C'est en fait une procédure. La démocratie, c'est une méthode qui comprend quatre temps, des élections, une délibération, une décision et une reddition de compte. Là, en fait, vous avez ces quatre moments, vous êtes en démocratie libérale. S'il en manque un, vous êtes dans une démocratie d'un autre type. Si vous prenez Poutine, il y a des élections, il y a un peu de délibération, pas beaucoup, il y a des décisions, c'est clair. Il n'y a pas de reddition de compte. Un truc avec Medvedev, ça marche assez bien. On pas les fonds. Donc il manque un petit truc qui fait que ce soit une véritable démocratie. On peut respecter ces quatre éléments, mais nous, nous devons faire un chemin, c'est-à-dire que nous, on adore les élections, à tel point qu'on ajoute en plus des projets aux élections, donc ça, on adore. On adore la délibération, hein, c'est la fameuse phrase, la dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est pause toujours. Donc on adore ça aussi. On n'aime pas du tout la décision. Et ça, il va falloir changer. C'est-à-dire que quand on élit les gens, pour 5 ans, et on ne les emmerde plus pendant les 5 ans. Parce qu'après, il y a la reddition de compte, et ça, on adore aussi la reddition de compte. Mais le moment de la décision, il va falloir effectivement laisser de la place. Il me semble, un peu, hein, aujourd'hui, on est encore focalisé parce que nous sommes très libérés sur la lutte contre les abus de pouvoir. Il va falloir qu'on réfléchisse aux abus de contre-pouvoir. Aux abus du contre-pouvoir. Et les médias, de ce point de vue-là, sont des contre-pouvoirs qui abusent. Parce que nous en sommes des complices, nous autres citoyens, c'est nous qui achetons les médias et qui les vendons. Il va falloir réfléchir à ça. Abus de contre-pouvoir, nos démocraties en ce moment sont devenues ultra-libérales, et là-dessus, la sphère de la décision va devoir être défendue.
Qu'est-ce que c'est ce que dit Donald Trump? Oui, il a une dernière question, monsieur. Oui, monsieur Madame, les deux derniers, puis après, voilà, comme ça on équilibre.
Yannick Issous de Dunkerque, donc je vous le ramène. Mais il y a un autre point de votre exposé passionnant qui est interpellé, c'est les références les plus anciennes de l'autorité, il y a lors du Cosmos. Vous avez évoqué, est-ce que certains discours environnementaux, environnementalistes, ne font pas un écho moderne? Quelle part ça peut prendre dans la refondation des légitimités d'autorité dans notre société moderne?
Tout à fait. L'écologie est l'arrière de la comète, la traîne de la comète d'une vision cosmologique avec effectivement la nostalgie de l'ordre du monde parfait qu'il faudrait écouter. Il y a l'hypothèse Gaïa, par exemple, ce type d'analyse. Alors, ce n'est pas toute l'écologie, on ne peut pas aller jusqu'à cette métaphysique, bien sûr, mais c'est présent et c'est une tentation très forte. Simplement, la grande difficulté, c'est que la cosmologie avait Aristote, et aujourd'hui, on n'a pas l'équivalent. C'est-à-dire, personne ne nous dit que le monde est un cosmos. On ne comprend rien. Entre le micro et le macro, ce n'est pas du tout les mêmes lois. Donc, de ce point de vue-là, la science n'est pas au niveau. Pour le moment, de nous convaincre, même s'il y a des choses passionnantes là-dessus, de nous convaincre que le monde est un cosmos. Donc il n'est pas un cosmos, c'est pour ça que d'ailleurs, on ne peut pas faire d'astrologie. Ça n'a aucun sens, parce qu'il n'y a pas d'ordre du monde.
On revient
à mon
film, quand même. On revient
à mon
film.
Oui, le monde est fini. Enfin, le monde est fini, la planète est finie.
Oui, l'univers est fini. La biosphère est une forme de réhabilitation.
Oui, mais dont les mécanismes, c'est ça la grande différence avec la pensée cosmologique, dont les mécanismes ne sont pas identifiés. C'est ça le grand problème. C'est entre l'épuisement des ressources, le réchauffement climatique. On comprend qu'il y a des trucs qui dysfonctionnent peut-être par d'autres fautes, mais on ne comprend pas pourquoi. Alors que Aristote, pour lui, c'était évident, c'était le présupposé absolu. Les abeilles, en exemple qui est cher, quand on regarde les abeilles, on avait de quoi comprendre le grand cosmos. Et tout correspondait de manière presque magique. Ça nous manque.
Voilà.
Donc Magali Castex, Grand Paris Aménagement. Donc moi, je m'interrogeais en fait sur les figures d'autorité là, qui sont émergées en ce moment. Donc en effet, Donald Trump, je me demandais dans quoi ça rentrait comme catégorie. Enfin, il n'y a pas que Donald Trump, mais le fait d'affirmer son autorité par... Par la violence verbale qui n'est pas appuyée finalement sur un contenu, c'est de la posture qui impressionne, enfin, la posture de, on a appelé ça comme la porte du bicep, quelque chose du coup qui n'est pas relié à ce que vous avez cité, ni leadership.
Ça, c'est l'état, effectivement, du brouillage de l'autorité, c'est-à-dire que l'autoritarisme n'est pas l'autorité, il ne suffit pas d'adopter une posture, disons, de puissance pour être dans l'autorité démocratique. Il y a un malentendu. C'est vrai que, encore, on revient à Lee Kuan Yew, personnage étrange, encore une fois, difficile à décrypter, il n'y a aucun abus de pouvoir. Même si c'est une politique, parce que c'est très calme, c'est très clair, il n'a pas ses muscles, il est très, très, très british de ce point de vue-là, il a fait ses études à Cambridge. C'est un personnage qui, justement, n'a aucun éclat de voix, etc. Donc il est dans une autre configuration. Ce que Trump révèle, c'est qu'effectivement, dans le contexte du brouillage de l'autorité, si on ne clarifie pas, eh bien, le pire de l'ancien peut revenir. Après, on va voir ce qu'il fait, hein, aussi. Il faut être prudent. Mais au pire de l'autorité ancienne, on est.
Les mal barrés. Bon, on va peut-être déjeuner.
On a le temps encore pour une question. C'est que dans cette espèce de mise en cohérence, de mise en compétition de démocratie, de l'offre des démocratiques, disons, vous faites la discussion sur l'autorité, mais ce qui a tendance à disqualifier une démocratie libérale, c'est un problème d'efficacité. Et la supériorité, la possible supériorité d'un régime à la Singapour, c'est que ça marche.
Ça marche. Et souvent, parfois, et sur certains points.
Oui.
Pour Singapour, ça marche très bien. Abu Dhabi, ça marche pas mal.
Ce qui renvoie à une autre question aussi, c'est le renforcement du pouvoir des familles métropolitaines. Donc c'est sûr que si on les abstrait de leur territoire, d'une certaine façon, ça marche mieux. On enlèverait New York des États-Unis, Londres de l'Angleterre et l'Île-de-France de la France, ces trois groupes se développeraient beaucoup mieux, justement, parce qu'on est dans une économie collaborative métropolitaine. Et qu'au fond, le territoire est une charge. Quand il n'y a pas de charge, le modèle fonctionne bien. Donc ça nous renvoie aussi à cette question quand même assez compliquée. Quoi. Comment se débarrasser du territoire, ce qui est le problème des Italiens avec le Mezzogiorno, etc. Et donc, on voit une autre logique, qui est une spatialité du développement. Effectivement, certaines formes politiques peuvent s'en saisir en disant pour une grande ville métropolitaine qui marche très bien, dans laquelle au fond il n'y a plus vraiment de classe sociale, mais une société en archipel avec une classe créative, d'une certaine façon, ce modèle assez proche de l'entreprise, il fonctionne bien parce que les formes habituelles d'organisation politique avec les classes, etc., ont disparu. Donc je veux dire, ça c'est une question à se poser. Quoi. C'est pour ça que c'est par hasard si ce sont des villes-états au fond, qui marchent pas mal, qui renvoient, et d'ailleurs le métro, il y a aussi un rôle important des villes-états. Donc il y aurait toute cette question.
Sans ressources.
Voilà, sans ressources, mais qui ont une ressource et une capacité de créativité extraordinaire.
Je pense qu'il ne faut pas. Il faut prendre au sérieux le fait que la Chine regarde vers ce modèle et cette espèce de mise à distance du modèle démocratique vient aussi de la Chine. Alors, elle est moins très enfant maintenant qu'il y a 3 ou 4 ans, mais par exemple, la problématique justement de la conversion écologique, de la transition écologique. C'est-à-dire que les Chinois disent, en gros, qu'on ne peut effectivement pas y arriver dans un système où le pouvoir change tous les 5 ans, où il faut se donner une direction de l'Europe.
Oui, il n'y a pas d'élection du tout. Hein.
Oui, d'accord. Donc,
au sein du parti.
Oui, il y a quand même le parti qui a 64 millions de morts, un truc comme ça, non ? C'est pas pour en faire l'éloge démocratique, mais je veux dire, c'est pas non plus
il y a une concurrence au sein du parti.
Non, mais c'est un vrai débat qu'on va pas régler maintenant, mais je veux dire, qui renvoie maintenant, mais qui renvoie aussi à la question dans notre société, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire au fond de la révolte de ce qui n'est pas la grande ville, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et on est face là à des enjeux tout à fait nouveaux. Trump, pour moi, c'est vraiment l'élection du refus de la grande métropole, je veux dire, par rapport à cette question. Donc ça renvoie à la discussion précédente.
Après, on renverse.
Mais après, je pense qu'on devrait aller déjeuner.